La Russie post-communiste, une dérive oligarchique et kleptocratique. Par comparaison avec la société des petits voleurs que fut le régime soviétique, on peut dire que le système post-communiste voit l'arrivée sur scène des oligarques et des grands pillages d'actifs publics. Reprenons le fil des événements. Le démantèlement de l'Union soviétique et de son appareil productif en 1990-1991 conduisit tout d'abord à une chute du niveau de vie en 1992-1995. Puis, le revenu par habitant remonte à partir de la fin des années 1990 et se situe depuis le début des années 2010 à environ 70% du niveau ouest européen, si l'on se place en parité de pouvoir d'achat. Mais à un niveau deux fois plus bas si l'on utilise le taux de change courant, compte tenu de la faiblesse du rouble. Au total, si la situation moyenne s'est améliorée depuis la fin du communisme, le bilan reste extrêmement mitigé, d'autant plus que les inégalités ont progressé de manière spectaculaire au cours des années 1990. De ce point de vue, il faut souligner l'extrême opacité qui caractérise la mesure et l'analyse des revenus et des propriétés dans la Russie post-communiste. Cela tient notamment au choix qui a été fait par le pouvoir yeltsinien, puis poutinien, de laisser se développer dans des proportions inédites le contournement du système légal national par des structures offshore et des actifs localisés dans les paradis fiscaux. Ce facteur général est aggravé parce que le régime post-communiste a abandonné non seulement toute ambition en termes de redistribution, mais également toute tentative d'enregistrer les revenus ou les patrimoines. Il n'existe par exemple aucun impôt sur les successions en Russie post-communiste, si bien qu'il n'existe aucune statistique successorale publique. Il existe un impôt sur le revenu, mais il est strictement proportionnel, et son taux est, depuis 2001, de seulement 13%, que votre revenu soit de 1000 roubles ou de 100 milliards de roubles. On remarquera au passage qu'aucun pays n'a été aussi loin dans la démolition de l'idée même d'impôt progressif. Aux États-Unis, les administrations Reagan et Trump ont certes mis au cœur de leur projet politique la diminution des taux d'imposition applicables aux revenus les plus élevés, dans l'espoir de stimuler l'activité économique et l'esprit entrepreneurial. Mais ils n'ont pas été jusqu'à supprimer le principe même de l'impôt progressif. Les taux appliqués aux bas revenus sont restés plus faibles que ceux appliqués aux plus hauts revenus. Et ces derniers ont été réduits par les administrations républicaines à environ 30-35% quand elles en ont eu l'occasion, et non pas à 13%. Une flat tax, impôt proportionnel, à 13% déclencherait une très vive opposition aux États-Unis. Et il est difficile d'imaginer les contours d'une majorité électorale et idéologique susceptible d'approuver une telle politique, tout du moins à horizon prévisible. Le fait qu'une telle politique fiscale ait pu être adoptée en Russie montre à quel point le post-communisme constitue d'une certaine façon le point extrême de la rupture ultralibérale et inégalitaire des années 1980 et 1990. On notera également que l'impôt progressif sur le revenu ou les successions n'existait pas ou jouait un rôle totalement secondaire dans les pays communistes, puisque la planification centralisée et le contrôle étatique direct des entreprises permettaient de fixer directement les échelles de salaire. Une fois la planification démantelée et les entreprises privatisées, l'impôt progressif aurait néanmoins pu et dû jouer tout son rôle, à l'image du rôle qu'il a joué dans les pays capitalistes au cours du XXe siècle. Si tel n'a pas été le cas, cela montre aussi la faiblesse des transmissions et partages d'expériences entre pays. Comme souvent en pareil cas, l'absence d'investissement politique dans l'impôt progressif va de pair avec la constatation que l'administration fiscale russe est particulièrement peu transparente et que les données fiscales disponibles sont extrêmement rudimentaires et limitées. Les sources auxquelles nous avons pu accéder avec Philippe Novokmet et Gabriel Zucman nous ont néanmoins permis de montrer que les estimations officielles, qui se fondent sur des enquêtes basées sur l'autodéclaration et ignorent presque complètement les hauts revenus, sous-évaluent gravement la hausse des inégalités de revenus depuis la chute du communisme. Concrètement, Ces nouvelles données indiquent que la part du décile supérieur dans le revenu total, qui était d'à peine plus de 25% en 1990, est passée à environ 45-50% autour de 2000, avant de se stabiliser à ce niveau très élevé. De façon encore plus spectaculaire, la part du centile supérieur serait passée d'à peine 5% en 1990 à environ 25% en 2000, soit un niveau sensiblement plus élevé que les États-Unis. Le pic inégalitaire aurait été atteint vers 2007-2008 et les très hauts revenus russes auraient décliné depuis la crise de 2008 et les sanctions économiques contre la Russie à la suite de la crise ukrainienne de 2013-2014, tout en restant à des niveaux extrêmement élevés et sans doute sous-estimés compte tenu des limites des données disponibles. Pour résumer, en moins de 10 ans, entre 1990 et 2000, la Russie post-communiste est passée du statut de pays qui avait réduit les inégalités monétaires à l'un des plus bas niveaux observés dans l'histoire, à celui d'un des pays les plus inégalitaires du monde. La rapidité de la transition inégalitaire suivie par la Russie post-communiste entre 1990 et 2000, inédite à l'échelle du monde et des données historiques rassemblées dans la base de données WID.World, témoigne de la particularité de la stratégie économique suivie par la Russie pour passer du communisme au capitalisme. Là où d'autres pays communistes comme la Chine ont privatisé par étapes et préservé des éléments importants de propriété étatique et d'économie mixte, stratégie gradualiste que l'on retrouve dans une certaine mesure et avec de multiples variantes en Europe de l'Est, la Russie a fait le choix de la fameuse « thérapie de choc », visant à privatiser la quasi-totalité des actifs publics en quelques années seulement, dans le cadre du système de vouchers mis en place entre 1991 et 1995. En principe, chaque citoyen russe disposait d'un chèque privatisation, voucher privatization, lui permettant de devenir actionnaire de l'entreprise de son choix. En pratique, dans un contexte d'hyperinflation, plus de 2500% de hausse des prix en 1992, où de nombreux salaires et retraites étaient tombés à des niveaux réels extrêmement bas, où des milliers de personnes âgées ou sans emploi mettaient en vente leurs effets personnels sur les trottoirs de Moscou, et à l'inverse, où le gouvernement russe offrait des conditions avantageuses à des noyaux durs d'actionnaires qui se proposaient de racheter des paquets importants d'actions, ce qui devait arriver arriva. Une grande partie des entreprises russes, en particulier dans le secteur de l'énergie, tomba en quelques années entre les mains de petits groupes d'actionnaires habiles qui parvinrent à prendre le contrôle à bas prix des vouchers de millions de Russes et qui devinrent en peu de temps les nouveaux oligarques du pays. D'après les classements établis par le magazine Forbes, la Russie est ainsi devenue en quelques années le leader mondial toute catégorie en termes de milliardaires. Au début des années 1990, le pays n'en comptait fort logiquement aucun, puisque la propriété était entièrement publique. Dans le courant des années 2000-2010, la fortune cumulée des milliardaires russes enregistrée par Forbes a atteint l'équivalent d'environ 30-40% du revenu national russe, soit un niveau entre 3 et 4 fois plus élevé que celui observé aux États-Unis, en Allemagne, en France ou en Chine. Toujours d'après Forbes, l'immense majorité de ces milliardaires résident principalement en Russie et ils ont particulièrement prospéré depuis le début des années 2000 et l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Encore faut-il préciser que ces données ne prennent pas en compte toutes les personnes qui ont accumulé quelques dizaines ou centaines de millions de dollars, qui sont beaucoup plus nombreuses et significatives d'un point de vue macroéconomique. De fait, la particularité de la Russie des années 2000-2020 est que le pays et ses richesses sont, pour une large part, détenues par un petit groupe de propriétaires très fortunés résidant en Russie, ou parfois partiellement en Russie et partiellement à Londres ou Monaco, à Paris ou en Suisse. Leur possession s'organise au travers de structures juridiques, sociétés écrans, trusts, etc., localisées dans des paradis fiscaux, de façon à pouvoir échapper autant que possible à d'éventuels soubresauts du système légal et fiscal russe, pourtant peu regardant. Le développement de montages et d'entités juridiques permettant de placer ces actifs dans des juridictions extérieures au territoire national considéré et offrant des garanties solides à leurs propriétaires alors même que les activités économiques réelles se déroulent toujours sur le territoire en question, est d'ailleurs une caractéristique générale de la mondialisation économique, financière et juridique en plein développement depuis les années 1980-1990. Ce processus découle notamment du fait que les traités et accords internationaux mis en place par l'Europe et les États-Unis pour libéraliser les flux de capitaux à partir de cette période n'ont prévu aucun mécanisme de régulation et d'échange d'informations permettant aux États de continuer de mener une politique fiscale, sociale et légale adéquate et de développer les coopérations nécessaires dans ces domaines. Les responsabilités pour cet état de fait sont donc largement partagées. Il reste que, au sein de ce paysage général, le degré de contournement du système légal russe a atteint des proportions inédites, comme l'ont montré des travaux juridiques récents. Quand les actifs offshore dépassent le total des actifs financiers légaux. Il faut également souligner que l'ampleur macroéconomique des fuites de capitaux place véritablement la Russie dans une situation à part. De façon générale, il est par nature difficile de comptabiliser précisément ce type de dissimulation. Dans le cas de la Russie, la situation est toutefois simplifiée par l'importance des détournements et parce que le pays a réalisé au cours de la période 1993-2018 d'énormes excédents commerciaux, près de 10% du produit intérieur brut en moyenne au cours de cette période de 25 ans, soit au total près de 250% du PIB, deux années et demie de production nationale. Autrement dit, depuis le début des années 1990, les exportations russes, notamment en termes de gaz et de pétrole, ont dépassé massivement les importations de biens et services entrant chaque année dans le pays. En principe, le pays aurait donc dû accumuler d'énormes réserves financières à l'étranger, approximativement du même ordre. C'est d'ailleurs le cas d'autres pays pétroliers, comme la Norvège, qui, dans son fonds souverain, dispose d'actifs dépassant les 250% du PIB depuis le milieu des années 2010. Or, les réserves officielles de la Russie sont en 2018 inférieures à 30% du PIB russe. Il manque donc de l'ordre de 200% du PIB russe, sans même prendre en compte les revenus produits par ces actifs. Les données officielles issues de la balance des paiements du pays révèlent d'autres caractéristiques étonnantes. Les actifs publics et privés placés à l'étranger semblent avoir obtenu des rendements particulièrement médiocres, voire certaines années subi de fortes pertes en capital, alors que les actifs étrangers investis en Russie ont invariablement obtenu des rendements exceptionnels, en lien notamment avec les fluctuations du rouble, ce qui expliquerait en partie que la position patrimoniale nette du pays vis-à-vis du reste du monde ne se soit pas accrue davantage. Il est fort possible que ces écritures comptables dissimulent, elles aussi, des opérations liées à des fuites de capitaux. En tout état de cause, même en acceptant de prendre comme données et légitimes ces différentiels de rendement, il est indéniable que les réserves officielles figurant dans la balance des paiements demeurent beaucoup trop faibles. En faisant des hypothèses extrêmement conservatrices, on peut estimer que les fuites de capitaux cumulées depuis le début des années 1990 atteignent au milieu des années 2010 environ une année de revenu national russe, voire graphique 12.4. Précisons qu'il s'agit d'une évaluation minimale et que la réalité pourrait être deux fois supérieure, voire davantage. Quoi qu'il en soit, cette évaluation minimale implique que les actifs financiers détenus au travers de paradis fiscaux sont approximativement du même montant que la totalité des actifs financiers légaux détenus par les ménages russes en Russie, soit environ une année de revenu national. Autrement dit, la propriété offshore est devenue au moins aussi importante que la propriété financière légale d'un point de vue macroéconomique et l'a sans doute dépassée. L'illégalité est devenue la norme, en quelque sorte. Les autres sources permettant d'appréhender et de confirmer l'ampleur des détournements russes et plus généralement le développement sans précédent des paradis fiscaux au niveau mondial depuis les années 1980-1990 sont notamment issues des incohérences des statistiques financières internationales. Les balances des paiements des pays permettent, en théorie, de mesurer les flux financiers entrants et sortants, et en particulier les flux entrants et sortants de revenus du capital, dividendes, intérêts, profits de toute nature. En principe, les totaux des flux entrants et sortants devraient chaque année s'équilibrer au niveau mondial. La complexité de ces opérations statistiques pourrait certes entraîner de légers écarts, mais qui devraient alors aller dans les deux sens et s'équilibrer au cours du temps. Or, il existe depuis les années 1980-1990 une tendance systématique à ce que les flux sortants de revenus du capital dépassent les flux entrants. Ces anomalies permettent d'estimer que les actifs financiers détenus dans les paradis fiscaux et non enregistrés dans les autres pays atteignaient au début des années 2010 près de 10% du total des actifs financiers mondiaux. Tout indique en outre que la progression a continué depuis lors. En exploitant par ailleurs des données rendues publiques par la Banque des règlements internationaux, BRI, et la Banque nationale suisse, BNS, sur les pays de détention, on peut estimer la part approximative que représentent pour chaque pays les actifs offshore détenus dans les paradis fiscaux par rapport au total des actifs financiers, légaux et illégaux, détenus par les résidents du pays en question. La conclusion est que cette part est de seulement 4% aux États-Unis, 10% en Europe, 22% en Amérique latine, 30% en Afrique et atteint 50% en Russie et 57% dans les monarchies pétrolières. Voir graphique 12.5. Il faut souligner que ces estimations doivent là encore être considérées comme minimales. En particulier sont exclus de ces calculs ou mal pris en compte les actifs immobiliers et les parts dans les sociétés non cotées. On notera au passage que l'opacité financière concerne tous les pays, et notamment les moins développés, ce qui, pour ces derniers, complique singulièrement la construction de l'État et d'une norme de justice fiscale acceptable par le plus grand nombre. Aux origines de la thérapie de choc et de la kleptocratie russe. Revenons sur les raisons qui ont conduit la Russie post-communiste à devenir le pays des oligarques et de la kleptocratie, après avoir été celui des soviets et de l'égalité monétaire. Il est tentant d'évoquer un mouvement naturel de retour de bâton. Le pays a été traumatisé par l'échec soviétique et fort naturellement, il est reparti avec énergie dans la direction opposée, celle du capitalisme sans règles. L'explication ne peut pas être totalement fausse, mais elle est un peu courte et elle pêche par déterminisme. Il n'y a rien de naturel dans la transformation post-communiste, pas plus que dans les autres trajectoires de transformation des régimes inégalitaires. De multiples choix s'ouvraient en 1990 et s'ouvrent toujours pour l'avenir. Plutôt que de privilégier les relectures déterministes, il est plus intéressant de voir dans ces évolutions le fruit de processus socio-économiques et politico-idéologiques contradictoires et conflictuels, caractérisés par de multiples points de bifurcation possibles qui auraient pu tourner différemment en fonction des capacités de mobilisation et des rapports de force entre les différents groupes et discours en présence. Le choix de la thérapie de choc dans la transition post-soviétique fit l'objet au début des années 1990 de luttes brèves mais intenses, à un moment où le pays était dans une situation d'extrême faiblesse. Parmi les partisans de la thérapie de choc figuraient notamment un grand nombre d'acteurs issus des gouvernements occidentaux, et notamment états-uniens, et des agences et organisations internationales basées à Washington, à commencer par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. L'idée générale était qu'une privatisation ultra rapide de l'économie russe était la seule façon de s'assurer de l'irréversibilité des changements en cours et d'empêcher un possible retour au communisme. De façon générale, il n'est pas exagéré de dire que l'idéologie dominante au sein des économistes officiant dans ces institutions et intervenant dans ces débats au début des années 1990 était beaucoup plus proche du capitalisme anglo-saxon de type Reagano-Thatcherien que de la social-démocratie européenne ou de la cogestion germanique et nordique. En particulier, la perception la plus répandue parmi les conseillers occidentaux œuvrant alors à Moscou était que l'Union soviétique avait péché par un excès d'égalité, et, dès lors, que la question de la possible montée des inégalités consécutives aux privatisations et à la thérapie de choc devait être considérée comme un souci secondaire et non prioritaire. Avec le recul dont nous disposons aujourd'hui, on peut toutefois noter que les niveaux d'inégalité monétaire observés en Russie soviétique dans les années 1980 ne sont pas très différents de ceux observés au même moment en Europe nordique et notamment en Suède, avec dans les deux cas environ 25% du revenu total pour le décile supérieur et 5% pour le centile supérieur, ce qui n'a jamais empêché la Suède de figurer parmi les pays au plus haut niveau de vie et de productivité dans le monde. Le problème n'était donc pas tant le niveau excessif d'égalité en tant que tel que l'organisation de l'économie et de la production, caractérisée en Union soviétique par la planification centralisée et l'abolition absolue de la propriété privée des moyens de production. On peut raisonnablement penser que l'adoption en Russie d'institutions social-démocrates de type nordique, avec un impôt fortement progressif, un système avancé de protection sociale et la cogestion syndicat-actionnaire, aurait permis de préserver une certaine égalité, tout en favorisant un niveau élevé de productivité et de conditions de vie. Le choix de société qui a été fait dans la Russie post-communiste des années 1990-2000 est très différent. On a choisi d'offrir à un petit groupe de personnes, les oligarques, de prendre durablement possession de l'essentiel des richesses du pays, le tout avec une flat tax de 13% sur les revenus et 0% sur les successions, permettant de pérenniser cette situation, alors même que l'impôt progressif sur les revenus et les successions avait été appliqué avec succès dans l'ensemble des pays occidentaux au cours du XXe siècle. L'absence de mémoire historique et la faible capacité d'apprentissage des expériences partagées prennent parfois des proportions étonnantes, surtout s'agissant de personnes et d'institutions dont la raison d'être est la production de connaissances et d'expertise au service de la coopération internationale. Il serait cependant excessif d'attribuer ces choix politico-idéologiques uniquement à des influences extérieures. Ils sont aussi et surtout le fruit d'affrontements internes à la société russe. Dans les années 1980, Gorbatchev avait tenté sans succès de promouvoir un modèle économique préservant les valeurs du socialisme, tout en favorisant une certaine ouverture aux coopératives et à des formes régulées, et souvent mal définies, de propriété privée. D'autres groupes au sein du pouvoir russe, en particulier ceux issus de l'appareil sécuritaire, n'avaient visiblement pas les mêmes opinions. De ce point de vue, les analyses présentées par Vladimir Poutine dans le documentaire d'entretien réalisé en 2017 par le réalisateur Oliver Stone, par ailleurs très poutinien, sont particulièrement révélatrices. Poutine raille notamment les lubies égalitaires de Gorbatchev et son obsession à vouloir sauver le socialisme dans les années 1980 et en particulier son goût pour les socialistes français. Référence approximative mais significative, les socialistes français représentaient à ce moment-là ce qui se faisait de plus socialiste dans le paysage politique occidental. En substance, il en conclut que seule une renonciation sans équivoque à toute forme d'égalitarisme et de socialisme pouvait permettre de rétablir la grandeur de la Russie qui exige avant tout hiérarchie et verticalité, aussi bien sur le plan politique que sur le terrain économique et actionnarial. Il faut aussi insister sur le fait que cette trajectoire n'était pas écrite à l'avance. En particulier, la transition économique post-soviétique a été menée dans un climat particulièrement chaotique et sans réelle légitimité électorale et démocratique. Quand Boris Yeltsin fut élu président de la Fédération de Russie au suffrage universel en juin 1991, personne ne savait exactement quels seraient ses pouvoirs. Tout s'accéléra à la suite du putsch communiste manqué d'août 1991, qui conduisit au démantèlement accéléré de l'Union soviétique en décembre. Les réformes économiques furent ensuite lancées au pas de charge, avec la libéralisation des prix en janvier 1992 et le voucher privatization début 1993. Tout cela se déroula sans que de nouvelles élections législatives aient été organisées, si bien que les décisions clés furent imposées par l'exécutif à un parlement hostile, élu en mars 1990 à l'époque soviétique, à un moment où les candidatures non communistes n'étaient acceptées qu'au compte-gouttes. Il s'ensuivit un conflit violent entre le pouvoir présidentiel et législatif qui fut réglé par la force à l'automne 1993 avec le bombardement et la dissolution du Parlement. Si l'on excepte l'élection présidentielle de 1996, remportée de justesse par Yeltsin avec à peine 54% des voix au second tour face au candidat communiste, aucune élection véritablement disputée n'a eu lieu en Russie depuis la chute de l'Union soviétique. Depuis l'avènement de Poutine, en 1999, les arrestations d'opposants et les conditions d'accès aux médias ont conduit de facto à la mise en place d'un pouvoir autoritaire et plébiscitaire, sans que les orientations fondamentales oligarchiques et inégalitaires prises à la chute du communisme aient jamais été véritablement débattues et remises en cause. Récapitulons. L'expérience communiste et post-communiste russe illustre de façon extrême le poids des dynamiques politico-idéologiques dans l'évolution des régimes inégalitaires. L'idéologie bolchevique, appliquée après la révolution de 1917, était relativement fruste, dans le sens où elle reposait sur une croyance en une forme exacerbée d'hypercentralisation étatique. Ces échecs conduisirent à une fuite en avant de plus en plus répressive et à des niveaux d'enfermement inédits dans l'histoire. Puis, la chute du soviétisme, en 1991, conduisit à une forme extrême d'hypercapitalisme et à une dérive kleptocratique, elle aussi sans précédent. Ces épisodes montrent également l'importance des moments de crise dans l'histoire des régimes inégalitaires. Les idées disponibles lors des points de bifurcation peuvent faire basculer durablement les trajectoires historiques en fonction notamment des capacités de mobilisation des différents groupes et discours en présence. En l'occurrence, la trajectoire post-communiste russe illustre pour partie le manque de renouvellement et de structuration internationale du programme social-démocrate et socialiste participatif à la fin des années 1980 et au début des années 1990, par comparaison à l'agenda à la fois hyper-capitaliste et autoritaire identitaire. Si l'on se projette maintenant vers l'avenir, on peut légitimement se demander pourquoi les pays ouest-européens ne s'intéressent pas davantage aux origines des fortunes russes et sont aussi tolérants vis-à-vis de détournements aussi massifs. Une explication possible est qu'ils sont en partie à l'origine de la thérapie de choc et qu'ils ont bénéficié des fuites de capitaux de riches russes au travers d'investissements dans l'immobilier, la finance, le sport ou parfois les médias. C'est le cas évidemment du Royaume-Uni, mais également de la France et de l'Allemagne. On pourrait aussi évoquer la crainte d'une riposte violente de l'État russe. Il reste que, plutôt que d'imposer des sanctions commerciales qui affectent l'ensemble du pays, il serait plus adapté de geler ou de pénaliser lourdement les actifs financiers et immobiliers aux origines troubles. Cela permettrait de s'adresser à l'opinion et à la population russe, qui est la première à souffrir de la dérive kleptocratique. Si les États européens ne sont pas plus volontaires, c'est sans doute pour une large part qu'ils craignent de ne pas savoir où s'arrêter s'ils commencent à remettre en cause certaines appropriations privées du passé, symptômes pandoriens déjà maintes fois rencontrés. La lutte contre l'opacité financière et la mise en place d'un véritable cadastre financier permettraient pourtant à l'Europe de résoudre de nombreux autres problèmes auxquels elle fait face.